Nous lirons dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 16, les versets 1 à 8. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates pour venir l'embaumer. Le premier jour de la semaine, elles viennent au tombeau de bon matin, au lever du soleil. Elles disaient entre elles, « Qui roulera pour nous la pierre de l'entrée du tombeau ?» Levant les yeux, elles voient que la pierre, qui était très grande, a été roulée. En entrant dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent effrayées. Il leur dit, « Ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus le Nazaréen, le crucifié. Il s'est réveillé. Il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, tremblantes et stupéfaites. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Quel étrange texte pour un matin de Pâques! Pas la moindre petite trace d'un élan de joie, mais l'effroi, la stupeur, les tremblements, la peur et le silence des femmes. Pas la moindre apparition du ressuscité non plus. Il n'est pas là, pas là du tout. Il vous précède en Galilée. « C'est là que vous le verrez, dit le jeune homme. Pas ici, pas maintenant, un futur, un ailleurs, et en dernier mot, la peur. » Quelle étrange finale que celle de l'évangile de Marc. Car c'est ainsi que se termine cet évangile, quel qu'ait été le nom de l'évangéliste, et d'ailleurs peut-être était-il plusieurs, à réfléchir, à méditer, à prier pour écrire. Et pour décider de cette chute abrupte, dérangeante, intrigante, presque inquiétante. Bien sûr, il est possible de se dire que tout de même les femmes ont dû parler. Peut-être quelques heures plus tard, peut-être le lendemain, une fois les tremblements calmés et la peur ayant reflué. Mais ce n'est pas ce que Marc a décidé d'écrire. Non pour solliciter l'imagination et le raisonnement des lecteurs, mais parce que ces quelques phrases que nous avons lues suffisent pour dire ce qu'il voulait dire. Alors certes, dans les Bibles, nous pouvons lire quelques lignes supplémentaires, ajoutées postérieurement à la rédaction de l'Évangile. Quelques lignes, quelques versets en forme de compilation et de condensation des récits d'après Pâques des autres Évangiles. Tout ensemble, des apparitions de ressuscité à Marie de Magdala, aux disciples, un envoi aux missions et même l'ascension du ressuscité. Et plus précisément, ce sont même deux ajouts qui ont été faits, deux finales, une longue et une courte, sans souci d'articulation de l'une à l'autre, mais pour terminer le texte sur une note positive et rassurante. Mais ce n'est pas ce que Marc avait décidé. Alors prenons-le un peu au sérieux. Lisons son texte tel qu'il l'a voulu. Pas d'apparition du ressuscité, pas de joie. Alors quoi? Ce qui apparaît à la lecture de l'ensemble de l'évangile de Marc, c'est que l'auteur se méfie beaucoup des miracles. Alors certes, il en a écrit plusieurs, mais à la suite desquels Jésus ne cesse d'ordonner le silence à ceux qui en ont bénéficié et à ceux qui en ont été témoins, lesquels le plus souvent s'empressent de les rapporter largement autour d'eux. En ce qui concerne la résurrection, Marc se montre encore plus radical. Pas d'apparition du tout. Et les lecteurs feront avec, ou plutôt sans. Ils ne liront rien à ce sujet. Mais c'est ainsi que Marc évite ce qui représente pour lui deux risques majeurs pour les lecteurs et les croyants. Le premier, c'est de mettre sa foi dans un texte. Le second, c'est de croire en raison d'un miracle, une guérison, marcher sur les eaux ou la résurrection. Mettre sa foi dans un texte, c'est croire ce qui est écrit. Croire parce que c'est écrit, et dans la Bible, à plus forte raison. Mais cela revient à considérer l'écrit comme une preuve. Et cette attitude est à mille lieues de la confiance. Elle conduit au littéralisme et à l'extinction de toute réflexion, de tout esprit critique et de toute interprétation. Croire en raison d'un miracle, c'est s'attacher à l'extraordinaire, à un phénomène inexplicable par la connaissance, une fascination qui rend dépendant au miracle constaté, au miracle rapporté par d'autres, mais qui laisse particulièrement démunis face aux épreuves et face à la question du sens de l'existence. Donc pas de récit d'apparition dans l'évangile de Marc. Il ne s'agit pas de lire ou de voir pour croire. Et la sobriété de l'évangéliste lui évite d'avoir ajouté une formule analogue à celle de l'évangéliste Jean bien connu, « Heureux ceux qui croient sans voir, ceux qui ont cru sans avoir vu ». La sobriété de Marc, ce n'est pas un trait de son caractère, c'est un choix théologique délibéré. Reste qu'il faut quand même un certain culot pour terminer l'évangile par ces mots, car elles avaient peur. Il a été réveillé. Il n'est pas ici dans le tombeau, n'est-ce pas quand même une bonne nouvelle? Marc ne prend-il pas le risque de décourager ses lecteurs? Terminer par la peur, ce n'est pas très engageant, surtout en temps de crise. Et Marc écrit en temps de crise. Après la destruction du temple de Jérusalem, avec le judaïsme à reconstruire, avec des communautés chrétiennes émergentes et différentes. Et nous qui lisons dans ce 21e siècle qui n'a même pas encore 25 ans, eh bien nous le savons labouré par de multiples crises. Alors ne vaudrait-il pas mieux une fin d'évangile pleine d'espérance, avec de la joie et de clairs encouragements? C'est justement parce qu'il y a crise que Marc prend ses lecteurs très au sérieux. Mais pour lui, la crise fondamentale, la crise fondatrice, ce n'est pas la situation à Jérusalem et la destruction du temple. La crise décisive pour Marc, qui est décidément un auteur très culotté, la crise décisive, c'est Pâques, c'est la traversée de la mort à la vie. Reprenons le récit. Trois femmes marchent vers le tombeau dans lequel le corps de Jésus a été déposé. Trois femmes, c'est-à-dire dans le premier siècle, celles qui sont en situation de dépendance, d'un père, d'un mari, d'une famille, un statut de minorité permanente. Pour la plupart, même s'il y a des exceptions, elles sont confinées dans un rôle domestique, subalterne, dont il reste quelque chose au XXIe siècle. Ces trois femmes portent des aromates qui servent au rituel d'ensevelissement qui n'ont pas pu être effectués lors de la mise au tombeau car le sabbat était tout proche. D'une certaine manière, avec ces rites, elles viennent confirmer la mort. Et chemin faisant, elles se demandent « Qui roulera pour nous la pierre ?» C'est que pour elles, la situation est bloquée. Elles n'ont pas la force nécessaire pour ouvrir le tombeau. Alors le rituel ne pourra avoir lieu, les aromates resteront dans les pots, l'argent aura été dépensé en vain, et le deuil, elles se seront déplacées pour rien, et le deuil n'en sera que plus cruel. Tout cela est insensé. Et ce n'est pas la peine de se dire qu'elles auraient pu y penser avant, à cette pierre à rouler. Marc n'attend pas de ses lecteurs qu'ils rectifient son récit, ni qu'ils imaginent ce qu'il n'a pas écrit. Mais les femmes, ce matin-là, marchent dans une impasse. Elles vont droit dans la pierre. Mais au moins, elles en sont conscientes. Elles n'ont pas la capacité de résoudre le problème, mais elles ne le nient pas. Elles ont conscience d'avoir besoin d'aide, même si elles ne savent pas qui les aidera. Qui roulera pour nous la pierre? Ce qui est très différent du simple constat d'impuissance, nous ne pouvons pas rouler la pierre. Leur question? Une question sans arrière-pensée, c'est une petite espérance. Ou pas l'espérance en la résurrection du Christ, mais une petite espérance d'une solution, d'une sortie de l'impasse. C'est une question ouverte, une question d'ouverture, qui leur permet d'avancer sur le chemin malgré le fait énorme de cette pierre très grande qui ferme le tombeau. Et une ouverture dans une impasse, c'est déjà une bonne chose, même si elle semble trop petite pour qu'on puisse passer par là. Mais après s'être posé cette question ouverte, les femmes lèvent les yeux. Elles regardent plus haut et plus loin que leurs pieds, plus loin et plus haut que les 20 cm de chemin devant leurs pieds. Mais lever les yeux, c'est aussi une manière de prendre de la hauteur, hauteur de vue et de compréhension, élargissement du regard et de l'intelligence par rapport à l'immédiat, par rapport aux émotions, par rapport à l'impuissance, à l'incapacité. Et c'est peut-être la question ouverte qui provoque le mouvement des yeux. Une petite espérance permet une autre vision des choses. Alors voir plus loin, voir plus large, et pas seulement, car le verbe grec traduit là par « lever les yeux » signifiait également « voir de nouveau », recouvrer la vue. C'est ce même verbe qui exprime le recouvrement de la vue pour les aveugles dans le passage du livre du prophète Ésaïe que Jésus lit à la synagogue de Nazareth dans l'évangile de Luc au début de sa prédication. Les femmes lèvent les yeux, elles recouvrent la vue. Et ce qu'elles voient alors, ce n'est pas ce qu'elles pensaient, ce n'est pas ce dont elles étaient persuadées, ce n'est pas ce qu'elles croyaient, tous ces présupposés, ces préjugés, ces a priori qui altèrent la vision, quels que soient les siècles. Ce qu'elles voient, ce n'est pas ce que Marie de Magdala avait vu de ses yeux 3 jours auparavant, la mise au tombeau, la lourde pierre roulée. Ce n'est pas non plus ce que Marie, mère de Jacques et Salomé, avait entendu dire, peut-être par Marie de Magdala elle-même. Non, levant les yeux, recouvrant la vue, elle voit la réalité. La pierre a été roulée. Et un jeune homme est assis dans la tombe. Au lieu du corps mort de Jésus, un être vivant qui annonce « Il a été réveillé », c'est-à-dire « Il a été ressuscité ». Ce n'est plus l'heure du deuil. Les aromates ne servent vraiment à rien. La mort n'a pas été la plus forte et la faim n'a pas été la fin. Alors là, voyez-vous, c'est un peu comme si la terre s'arrêtait de tourner. Qu'il n'y ait pas rien là où il n'y avait plus rien. Qu'il y ait du nouveau là où il n'y avait que du vide. Eh bien oui, cela effraie, cela fait peur. Parce que ce n'est pas seulement une bonne nouvelle, c'est une nouvelle qui va à l'encontre de cette profonde certitude humaine que la mort a le dernier mot sur toute existence, et cela jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jugement dernier. Mais ce n'était pas ce jour-là. Une nouvelle à laquelle il est impossible de se préparer, parce qu'elle est simplement impensable, c'est effrayant. Surtout que l'humain s'habitue. L'humain s'adapte à la mort, à sa prégnance. L'humain s'habitue, il s'adapte au malheur, à la violence, à l'injustice. Tout ce qui participe à la forme du monde, et même si c'est moche, eh ben c'est ce monde-là, c'est dans ce monde-là qu'il faut vivre ou survivre. Alors on y jette ses forces, même si on en a très peu, et on fait tout ce qu'on peut pour y vivre ou pour y survivre. On s'organise avec des défenses, des habitudes, des explications, des idéologies, des calendriers, des identités, des certitudes, personnelles ou communes, sociales ou religieuses, pour vivre, pour survivre. Autant de protections, mais qui sont en même temps des garanties à la domination de la mort. Parce qu'il est impossible de penser qu'il puisse en être autrement, au premier comme au XXIe siècle. Mais il a été réveillé. Il a été ressuscité. Alors les protections, les habitudes, les explications, les certitudes, les identités, tout cela est renversé. Alors les femmes sont hors d'elles, littéralement en grec, en extase, ce qui est faiblement traduit par stupéfaite. Mais il s'agit de bien plus que cela. Elles sont hors d'elles. Les repères connus ont été abattus. Si la mort n'a plus le dernier mot, elle a perdu son emprise sur la vie et tout ce qui est organisé dans cette emprise, en fonction d'elle, même pour s'en prémunir, tout cela n'a plus de sens. Et les femmes se retrouvent dans l'inconnu. Pâques provoque une crise. Une crise des repères, des pouvoirs, des statuts, des rôles, pour les plus forts comme pour les plus faibles, pour les privilégiés comme pour les défavorisés. Pâques est une crise. C'est la fin d'un monde. Parce que là où il devait y avoir la fin et plus rien, ce n'est pas la fin et il n'y a pas rien. C'est la fin d'un monde, mais qui survient dans une expérience personnelle et singulière. C'est-à-dire que Pâques représente la fin d'une compréhension du monde et donc de la manière d'y vivre. Le jeune homme a dit « N'ayez pas peur, car ce n'est pas le chaos ni le néant. Autre chose commence aussi. Pâques est le commencement d'une nouvelle compréhension, d'une nouvelle manière de vivre. Pâques est le faire part d'une nouvelle mise au monde. Mais comment ? Il vous précède en Galilée. Ben pourquoi en Galilée ? Parce que c'est là que tout avait commencé. Et que maintenant que le Christ est vivant, il s'agit de commencer à nouveau. Aller en Galilée, ce à quoi les disciples sont appelés, n'a rien à voir avec la géographie. C'est-à-dire, la Galilée, c'est là où Jésus a commencé son ministère. La Galilée, c'est au début de l'évangile de Marc. C'est le début de l'évangile. Lire, c'est interpréter. Lire l'évangile, c'est interpréter ce qui est écrit et ce qui est vécu, c'est-à-dire le monde, sa propre existence dans le monde. Aller en Galilée, c'est lire à nouveau l'évangile à partir de la lumière qui se lève le jour de Pâques, à partir de ce renouvellement de l'être que représente Pâques. Aller en Galilée, c'est reprendre les chemins de la vie, avec les joies et les peines, les épreuves et les découvertes, mais les vivre dans cette lumière qui s'est déjà levée, qui vient toujours de derrière celui ou celle qui entre, lecteur, disciple du 1er ou du 21e siècle. Et vivre dans cette lumière, c'est être ressuscité. Tel est le chemin que Marc ouvre à ses lecteurs et aux disciples. Vivre en ressuscité, en déshabitué du malheur et de l'emprise de la mort sous toutes ses formes, en désadapté de la violence des rapports de force et de l'injustice. Et ainsi, ce ne sont pas la peur et le silence qui terminent l'évangile de Marc, parce qu'il n'est pas terminé. Il n'est jamais terminé. Il n'est pas achevé et il n'a pas besoin des ajouts même canoniques. L'évangile de Marc est un évangile ouvert, parce que la résurrection, c'est l'ouverture à quelque chose d'autre qui ne vient pas de nous. L'évangile de Marc est un évangile ouvert que chaque disciple poursuit par son existence propre, en vivant de ce dont l'évangile témoigne à travers les actes et les paroles de Jésus, qui est le ressuscité, et que Marc fait apparaître. Celui qui s'approche des plus démunis et des plus fragiles, celui qui révèle et prend soin de l'humanité de chacun, celui qui libère et qui nourrit, qui enseigne et qui questionne, celui en qui le règne de Dieu s'est approché. Chaque lecteur, chaque disciple continue l'évangile en y réfléchissant, en le pensant, en le racontant, en vivant son existence de ressuscité, non gouvernée par des stratégies de survie, même dans les crises de l'histoire, mais une existence de ressuscité, se laissant inspirer par le Christ vivant. Aujourd'hui, nous pouvons être fatigués par l'épreuve que nous supportons depuis plus d'un an, effrayés par les perspectives difficiles des mois qui viennent, agacés, énervés des contraintes qui nous empêchent de mener nos relations et notre quotidien comme nous le souhaitons, éprouvés par la maladie ou endeuillés par les décès de proches. Nous pouvons être inquiets de l'augmentation de la précarité, de l'affrontement toujours plus violent des positions, des croyances, des idéologies, inquiets de la fragmentation de notre société, du changement climatique et des atteintes à la biodiversité. Et pour une de ces raisons, ou plusieurs, ou pour d'autres, certains ont le sentiment que nous allons droit dans un mur. Mais voici, Nous sommes éclairés par la lumière de Pâques, et aucune ténèbre ne peut engloutir cette lumière. Aucune pierre ne peut rester en place. Alors, nous pouvons poser des questions ouvertes, car aucun modèle social, politique, religieux ne peut poser un point final à l'histoire. Nous pouvons lever les yeux et voir des signes de vitalité, de fraternité, de compassion, et en produire nous-mêmes, librement, délibérément. Nous pouvons, malgré les impasses et les peurs, reconnaître des initiatives de solidarité, de justice, de préservation des vivants, nous y associer, en créer nous-mêmes. Nous pouvons nous mettre en quête de nouvelles manières de vivre ensemble, plus respectueuses d'autrui et de la terre, en étant vigilants à ce qu'une idolâtrie ne soit pas remplacée par une autre. Et nous pouvons aller en Galilée, lire et relire à nouveau les Écritures, le monde et la vie, pour pouvoir interpréter d'une voix libre et intègre notre existence de ressuscité, ressuscité par la grâce, par l'amour, par la fidélité du Dieu de Jésus-Christ. Alléluia.